France Culture, il est 12h30. 12h30, l'heure des informations avec vous, Antoine Mercier, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Pour la première fois depuis le référendum britannique, les chefs d'État et de gouvernement des 28 se retrouvent à Bruxelles. Le président de la Commission exhorte le Royaume-Uni à clarifier le plus rapidement possible la situation. Le Parlement européen réclame l'activation immédiate de la procédure de retrait du Royaume-Uni. La chancelière allemande prévient que Londres ne pourra pas choisir à la carte de garder les privilèges qu'il avait au sein de l'Union européenne, tout en renonçant à toutes ses obligations. Quant aux Britanniques, ils semblent vouloir prendre leur temps et ne prévoient pas de déclencher la procédure de sortie avant l'automne au plus tôt. Correspondance à cette édition de Pierre Benazé à Bruxelles, de Franck Madvon à Londres. En France, les opposants à la loi travail manifestent une nouvelle fois, c'est la 11e, dans la rue, alors que le Sénat vote un texte durci, précision avec Anne-Laure Chouin. La Cour suprême des États-Unis donne raison aux partisans de l'avortement en invalidant une loi texane qui imposait un cadre particulièrement rigide aux médecins pratiquant l'IVG, précision avec Nadine Epstein. Et puis la Turquie qui cherche toujours à sortir de son isolement diplomatique au lendemain de la normalisation de ses relations avec Israël. Ankara tend maintenant la main à la Russie. Correspondance à Moscou avec Marc Crépin, l'invité de la séquence interview. Jean-Marc Chardon reçoit l'avocat Olivier Frégé, spécialiste du droit de la concurrence, droit communautaire, dans la dernière partie, Caroline.
Eh bien, nous resterons, nous aussi, sur le Brexit, une fois encore, moment historique. Vous savez, Antoine, l'histoire ne va pas sans la géographie. Nous nous demanderons ce que les cartes des résultats de ce référendum disent de l'avenir, sans doute, de l'Union européenne. Est-ce que l'Europe va vers la désunion territoriale.
Après plusieurs jours donc de confusion et d'incertitude, la période post-Brexit se précise un petit peu. D'une part, la procédure de sortie ne se fera pas rapidement. Les Britanniques qui maîtrisent le calendrier souhaitent prendre leur temps et n'envisagent au plus tôt son déclenchement éventuel qu'à l'automne prochain. D'autre part, il n'y aura sans doute pas d'initiative forte des 27 autres pour relancer ou réorienter la construction européenne, si l'on s'en tient en tout cas au communiqué publié hier soir à Berlin après cette rencontre à trois, Merkel, Hollande, Renzi. On a en effet peine à avoir le renouveau annoncé. Extrait du communiqué, nous proposerons aux chefs d'État et de gouvernement et aux institutions européennes de lancer un processus selon un calendrier strict avec des engagements précis pour répondre aux défis présentés par le résultat du référendum britannique et développer des solutions concrètes pour un bon avenir aux Européens au sein de l'Union européenne. Voilà donc pour un extrait de ce communiqué. Commentaire après cette première rencontre donc à trois hier à Berlin, puis on verra ce qui se passera aujourd'hui à Bruxelles. Commentaire de l'économiste Daniel Cohen, qui était l'invité ce matin des Matins de France Culture.
En écoutant hier les dirigeants, obligés, je crois, tous collectivement de se dire, mais en fait, ils n'ont absolument pas préparé les conséquences politiques de ce Brexit. Ils sont en train de nous ressortir la même sauce, l'Europe de la croissance et du progrès social, sans se doter d'aucun instrument nouveau qui permettrait de faire advenir cet horizon, cette utopie. Le sommet d'hier n'a en fait rien dit de très intéressant sur le plan européen de reconstruction. La seule chose qui s'est dite, c'est non, nous n'entamons aucune négociation tant que la procédure, le célèbre désormais article 50, ne soit activée, ce qui veut dire qu'on est dans un compte à rebours de 2 ans. Aucune négociation avant, alors que Mme Merkel n'était pas exactement sur cette ligne au départ. Donc oui, c'est plutôt le raidissement. Vous avez voulu sortir. Vous allez démontrer à la face du monde que c'est très coûteux. Voilà, c'est ça, je crois, l'arrière-plan des discussions d'hier. Je ne sais pas si c'est bon ou si c'est mauvais, mais enfin, c'est comme ça qu'il faut voir le raisonnement des dirigeants européens. Non pas un grand plan B, non pas un nouveau traité, mais juste pour l'instant, au fond, assumer le risque de faire que ce soit coûteux pour le Royaume-Uni.
Daniel Cohen donc avec Guillaume Herner ce matin. On va être en ligne dans un instant avec Pierre Benazé à Bruxelles où se tient donc aujourd'hui un sommet consacré à ces évolutions. Mais on passe d'abord par Berlin où s'exprimait la chancelière devant le Bundestag ce matin, comme avant chaque sommet extrait.
Nous ferons en sorte qu'il n'y ait pas de négociation à la carte. Il faut bien faire la différence entre un pays membre de l'Union européenne et un pays qui ne veut pas en faire partie. Celui qui veut sortir de cette famille ne peut pas s'attendre à conserver ses privilèges sans les devoirs qui vont avec. Un pays qui, par exemple, souhaite avoir accès au marché unique doit en échange respecter les libertés fondamentales de l'Union européenne. Libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux. avec toutes les règles et les obligations que cela implique. Ceci est valable pour la Grande-Bretagne comme pour tous les autres.
Voilà, Londres ne pourra pas choisir la carte, disait Madame Merkel ce matin. Le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, appelait Londres à clarifier lui aussi le plus rapidement possible sa situation. On est en ligne avec Franck Mathevon, bonjour.
Bonjour Antoine.
Tout cela n'impressionne pas beaucoup apparemment le Premier ministre britannique David Cameron qui s'apprête à partir pour Bruxelles.
Oui, David Cameron l'a redit hier, il n'activera pas l'article 50 du traité de Lisbonne. Il en laisse le soin à son successeur. Le Premier ministre britannique ne va pas changer d'avis aujourd'hui. On le rappelle, Londres à la main, seul le pays qui veut sortir de l'UE peut engager le processus de sortie. Bruxelles n'a aucun pouvoir. Il semble même possible, on en parlait hier, que cet article 50 ne soit jamais invoqué. Après tout, le Parlement britannique est majoritairement pro-UE, les parlements régionaux, à commencer par celui d'Écosse, sont opposés au Brexit, même s'ils n'ont pas les moyens d'empêcher une sortie de l'UE, leur voix compte. Et le camp du Brexit lui-même semble déjà revenir sur des promesses de campagne. Certains responsables disent vouloir conserver l'accès au marché unique et même la liberté de mouvement des travailleurs. Tout cela va forcément retarder l'activation de l'article 50. Deux possibles élections générales anticipées pourraient encore perturber le calendrier. David Cameron devrait toutefois indiquer ce soir à Bruxelles que la volonté du peuple doit être respectée. Il dira aussi aux 27 que les inquiétudes sur l'immigration et la liberté de mouvement ont pesé lourd dans la campagne. Sous-entendu, vous auriez dû accepter plus de concessions. Les dirigeants européens lui répondront sans doute qu'ils pouvaient parfaitement se passer de ce référendum.
Franck Mathevon, merci, en direct de Londres. On va maintenant à Bruxelles. Nous sommes à quelques heures de l'ouverture de ce sommet que l'on ne baptise plus désormais sommet des 28, mais sommet des 27 plus 1. Et il semble clair, Pierre Benassé, bonjour.
Bonjour Antoine.
Il semble clair que malgré les très nombreux appels donc à clarifier rapidement la situation, eh bien rien ne va vraiment s'enclencher sur ce plan de la sortie de l'Union européenne du Royaume-Uni. Rien ne s'enclenchera aujourd'hui ou demain à Bruxelles.
Non, effectivement, le gouvernement britannique a le contrôle total de la suite des événements. Vous venez d'entendre Franck Mathevon, c'est la règle, c'est le traité européen. Personne n'avait jamais imaginé en écrivant ce traité qu'un pays qui décide de partir puisse immédiatement après être en proie à de telles hésitations. Le seul choix, c'est donc d'attendre le bon vouloir du Royaume-Uni. Et puis, vous l'avez dit, il y a eu ce matin même une session extraordinaire du Parlement européen. Beaucoup de députés ont applaudi la phrase de Jean-Claude Juncker qui disait « expression, il y a eu, conséquence, il doit y avoir ». Le président de la Commission européenne voudrait que le gouvernement britannique clarifie le plus rapidement possible la situation parce que l'Europe ne peut pas s'installer dans une incertitude prolongée. C'est le sentiment qui domine sur le continent avec les craintes économiques, les craintes sécessionnistes. En revanche, Jean-Claude Juncker a expressément demandé au commissaire européen et à ses fonctionnaires de ne prendre aucun contact et de n'entamer aucun pourparler avec des membres du gouvernement britannique, qu'ils soient pour ou contre le Brexit, tant que la procédure de retrait n'aura pas été officiellement lancée.
Alors pour le reste, le fameux plan de relance, le sursaut qui avait été annoncé notamment par la France pour relancer l'Europe pourrait en fin de compte ne pas vraiment faire sursauter si on en croit en tout cas le communiqué d'hier dont parlait Daniel Cohen au début de cette édition.
Non, effectivement, enfin, on devrait en parler au sommet informel à 27, c'est un petit déjeuner demain matin, informel donc, il n'y aura probablement pas de sursaut. Il y a cette phrase que vous avez citée tout à l'heure, hein, il faut développer des solutions concrètes pour un bon avenir pour les Européens au sein de l'UE. Alors il y a des thèmes qui sont évoqués par un peu tout le monde, défense, sécurité, protection des frontières, lutte contre le terrorisme, migration. Ça c'est un côté, le côté sécuritaire régalien quoi, en quelque sorte, qu'on voudrait confier à l'Union Européenne, des projets qu'on pourra peut-être faire plus avancer vu que le Royaume-Uni n'est pas là pour les freiner. Et puis la croissance, l'emploi, la compétitivité, le soutien à l'investissement, l'aide à la jeunesse, c'est relativement vague, c'est relativement flou, ça ressemble à tous les projets qu'on ressasse depuis des années, les plans Juncker, les plans d'aide à la jeunesse, etc. Matteo Renzi estime qu'il y a un besoin clair et fort de remodeler le projet, mais la petite phrase, c'est celle du Premier ministre, la polonaise Beata Szydło, qui dit que le couple franco-allemand, il serait douteux qu'il puisse faire quelque chose de nouveau pour l'Union européenne.
Pierre Benassé, merci beaucoup. En direct de Bruxelles, encore quelques échos politiques en France. Alain Juppé, candidat Les Républicains à la primaire à droite, appelle sur France Inter à ce que le processus de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne soit le plus bref possible. On l'écoute.
Il faut maintenant que du côté de Londres et de notre côté, nous tirions les conséquences de cette situation. Il faut que ce soit relativement bref et pas forcément douloureux. Il ne s'agit pas de s'antagoniser avec la Grande-Bretagne. Il ne s'agit pas de punir la Grande-Bretagne. Il faudra trouver avec la Grande-Bretagne de nouvelles relations. Il y a des structures qui existent. Il y a un espace économique européen dans lequel est la Norvège, par exemple. Je rappelle que nous avons avec la Grande-Bretagne, nous, Français, un accord dans le domaine militaire qui n'est pas concerné par le Brexit. Donc on va continuer, bien sûr, à travailler avec les Britanniques, mais on ne peut pas avoir un pied dedans et un pied dehors.
Est-ce qu'on peut attendre septembre ?
C'est une spécialité britannique. Au septembre est une date très proche. Hein. Mais il faut effectivement mettre en route maintenant le processus de séparation. Les Britanniques ont choisi de divorcer. Ils ne peuvent pas rester dans la maison commune.
Alain Juppé, donc avec Patrick Cohen. Autre point de vue, celui de Nicolas Dupont-Aignan, candidat de Debout la France à la présidentielle, député de l'Essonne. Sur Radio Classique, il parle, écoutez-le, des dirigeants européens.
Ils sont comme des canards sans tête qui continuent de courir. C'est fini. L'enjeu pour demain, c'est de reprendre le pouvoir sur ces gens-là, qui sont responsables de l'échec, qui à aucun moment ne se regardent dans la glace, qui sont désavoués par les peuples. Ce qui se passe en Italie, ce qui va se passer en France en 2017, ce qui va se passer dans tous les pays est très important. Et j'aimerais que dans le débat public en France, on sorte de la caricature. Il y a les méchants affreux qui ne sont pas contents du système et il y a les élites parfaites qui sont ravies du système. Ce qui est extravagant dans le regard français, médiatique surtout d'ailleurs, c'est cette incapacité totale de nos élites à tolérer que le peuple puisse s'exprimer d'un avis différent. Partout, les commentaires sont extravagants. Un peuple a voté. Il y a un score net. Le peuple britannique veut quitter cette organisation dépassée.
Mais c'est fait.
Et c'est fait. Mais je lis les commentaires, j'écoute et je trouve surréaliste l'attitude de la presse française.
Nicolas Dupont-Aignan, donc avec Guillaume Durand ce matin dans une tribune encore au New York Times. Marine Le Pen, présidente du Front National, estime que le destin de l'Union européenne ressemble de plus en plus à celui de l'Union soviétique morte, je cite, de ses propres contradictions. Nous saluons notre invité, l'invité de la séquence interview, l'avocat Olivier Frégé. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça aujourd'hui ? Vers quoi s'oriente-t-on ? Est-ce que ça va suffire malgré tout, d'une part d'attendre que les Britanniques veuillent bien enclencher cette fameuse procédure et d'autre part que les Européens trouvent un moyen de relancer ce projet européen d'une façon ou d'une autre pour éviter soit l'enlisement, soit l'éclatement. Comment vous voyez la suite sur le plan aussi de droit, parce que vous êtes un spécialiste de droit.
En termes de droit, tout a été dit. Hein, on ne peut pas forcer les Anglais à choisir, à déclencher l'article 50. Donc nous sommes entre leurs mains. Bon. Je crois que...
C'est quand même bizarre finalement ça, non ? Vous ne croyez pas que ça mériterait peut-être d'être modifié entre
un peu ? Il faut le modifier, ça veut dire refaire un traité, donc prévoir que tout le monde puisse partir. Je pense qu'on peut l'éviter. je pense qu'on a déjà assez donné. Bon. Donc ça veut dire qu'il va falloir réussir la sortie de la Grande-Bretagne et que ça va prendre du temps. Ça va leur prendre énormément de temps de toute façon s'ils confirment cette décision pour arriver à reconstruire un droit indépendant du droit européen. 80%, on l'a toujours dit, de la législation en Europe est fondée sur le droit européen. Il va falloir qu'ils réinventent leur droit.
Enfin bon, avant quand même, il y avait aussi un droit de la Grande-Bretagne vis-à-vis de l'Europe, non ?
Oui, donc ce qui compte, c'est-à-dire la large partie, toute la partie économique, je veux dire, nous avons atteint l'État fédéral dont tout le monde parle et que personne ne veut reconnaître. Nous sommes dans un État fédéral en réalité pour une large partie de notre législation. Donc aujourd'hui, le départ de la Grande-Bretagne va être pour les Anglais un énorme travail. Regardez, quand les Suisses sont sortis du triple E, il leur a fallu 3-4 ans.
De
l'espace économique européen dans lequel on voudrait bien que les Anglais reviennent. Il leur a fallu effectivement un temps considérable pour reconstruire leur système juridique. Donc là, le choc va être encore plus massif que ce qu'ils se préparent à faire.
Olivier Frégé, merci beaucoup. On vous retrouve donc dans la séquence interview dans quelques minutes.
France Culture, 12h44, suite du journal avec les opposants à la loi travail qui manifestent à nouveau aujourd'hui. C'est la 11e journée de contestation. Tandis que le Sénat vote un texte réécrit dans un sens beaucoup plus libéral que celui adopté à l'Assemblée.
Manuel Valls entend rétablir pour l'essentiel d'ailleurs cette version pour sa deuxième lecture par les députés. Ce sera le mois prochain, au risque évidemment de voir de nouveau les frondeurs du Parti Socialiste refuser de le voter. En tout cas demain, il recevra, demain et jeudi, les syndicats syndicats. Il n'entend toutefois pas renégocier ce texte. La journée a commencé avec une multitude d'actions, coups de poing de militants de la CGT, notamment dans les Hauts-de-France, comme des opérations péage gratuit, des blocages d'entreprises et d'accès aux autoroutes. À Paris, la Tour Eiffel, par exemple, a été fermée au public pour toute la journée. Puis il y aura cette manifestation dans la capitale également cet après-midi de Bastille à la place d'Italie. Ce matin, des résultats partiels de la votation citoyenne contre la loi travail ont été remis à l'Élysée. Des représentants de la CGT, FO, Solidaires, FSU, UNEF, UNEL et FIDEL espèrent encore infléchir la position de l'exécutif. Anne-Laure Chouin, bonjour.
Bonjour Antoine.
Parcours parlementaire maintenant qui semble assez balisé, on l'a vu, le Sénat puis l'Assemblée à nouveau. Qu'est-ce qui peut encore se passer d'ici le vote définitif à l'Assemblée, 49-3 ou pas?
Alors en tout cas, le gouvernement a opté pour la technique du « on ne bouge pas, mais on fait mine de discuter ». Après le psychodrame du manif, pas manif de la semaine dernière, l'heure semble à la décrispation avec l'autorisation aujourd'hui, vous l'avez dit, d'un cortège qui ressemble à un cortège cette fois, encadré tout de même par 2500 policiers. Et puis Emmanuel Valls, vous l'avez dit également, recevra demain et après-demain les 7 leaders syndicaux engagés contre la loi travail pour, selon l'exécutif, faire le point sur le texte, non pas tel qu'il a été retoqué au Sénat, mais tel qu'il devrait se représenter devant les députés pour également rassurer les partenaires sociaux sur le rôle des branches professionnelles qui ne sont pas vouées à disparaître, rassure le gouvernement, mais à qui on ne donnera pas non plus les moyens de contrôler le contenu des accords d'entreprise. Bref, pas question de revenir sur l'article 2, mais face à une opinion qui n'est toujours pas favorable dans sa majorité à la loi travail, selon les derniers sondages, et qui n'est pas non plus favorable du tout à l'utilisation du 49-3, il faut donner l'impression que le dialogue continue. De leur côté, les syndicats ne sont pas exactement en position de force. Certes, ils ont remis ce matin au conseiller social de François Hollande les résultats d'une votation citoyenne dont la CGT annonce qu'elle a réuni plus de 800 000 suffrages. Mais après 3 mois et demi de mobilisation et déjà 10 journées nationales d'action, le mouvement s'essouffle. Peu de chances que le texte ou même simplement l'article 2 soit retiré avant le vote définitif, a priori via le 49-3. Que va-t-il sortir demain des concertations entre le Premier ministre, la ministre du Travail et les syndicats? Sans doute aussi peu de choses que la semaine dernière, après la réunion Martinez-El Khomri, chacun était resté sur ses positions. Le patron de FO ce matin craignait un nouveau coup pour rien, selon ses mots. La mobilisation, elle, pourrait se poursuivre cet été.
Anne-Laure Chouin, merci. La Cour suprême des États-Unis réaffirme le droit des femmes à se faire avorter, décision majeure qui a été arrachée donc hier soir à la majorité de 5 juges contre 3 dans cette Cour suprême qui a donné raison aux partisans de l'avortement en invalidant une loi texane qui imposait un cadre particulièrement rigide aux médecins et centres pratiquant l'IVG. Nadine Epstein.
Bien que l'avortement ait été légalisé par la Cour suprême en 1973, de nombreux États américains, en tête desquels les plus conservateurs du Sud, n'ont jamais cessé d'imposer des restrictions à la pratique de l'IVG. Chaque femme jouit d'un droit constitutionnel à faire ses propres choix en matière de procréation, a commenté Barack Obama après avoir vu sa position confortée par les juges de la Cour suprême. Ils ont cassé une loi texane qui limitait les conditions d'application de l'avortement. Cette loi de 2013 obligeait les cliniques à s'équiper de matériel chirurgical démesuré et exigeait des médecins qu'ils puissent faire hospitaliser leurs patientes dans un établissement local. De sévères règles qui ont entraîné la disparition de dizaines de centres IVG, notamment au Texas. Les juges américains ont donc désavoué les pro-life et des manifestations de joie des défenseurs de l'interruption volontaire de grossesse se sont déroulées notamment sur la colline du Capitole à Washington. La candidate démocrate à l'élection présidentielle en a profité pour crier victoire pour toutes les femmes d'Amérique. L'avortement en sécurité doit être un droit pas seulement sur le papier mais en réalité, a déclaré Hillary Clinton. À l'inverse, récemment, Donald Trump estimait que les femmes qui se faisaient avorter devraient encourir une forme de punition. Des propos qui ont provoqué une telle indignation que le candidat républicain a été forcé de se rétracter.
Nadine Epstein.
La Turquie cherche à sortir de son isolement diplomatique. Elle a fait de grands pas hier vers d'anciens alliés majeurs en annonçant le même jour une normalisation de ses relations avec Israël et une main tendue à la Russie.
Le président Erdogan dit espérer que son message adressé à son homologue russe faisant état des regrets d'Ankara au sujet de l'avion militaire russe abattu par la Turquie en 2015, puisse aboutir à une normalisation rapide des relations, ce à quoi la Russie réagit favorablement ce matin. Vladimir Poutine affirme qu'il va appeler Erdogan demain, mais quand même, Marc Crépin, la normalisation des relations prendra quand même du temps, a dit Vladimir Poutine.
Oui, oui, oui. Elle prendra effectivement beaucoup de temps, autant de temps qu'il sera nécessaire pour rétablir, disons, les intérêts de la Russie dans la région. Et ce ne sera pas si facile, car au premier chef, il s'agit d'intérêts stratégiques. La Russie, on le sait, est engagée en Syrie, et elle est adversaire, pour ne pas employer un autre mot, de la Turquie actuellement. Elle est aussi, notamment, à la faveur de cet engagement, revenue sur la scène internationale comme une grande puissance. Alors, elle doit se comporter aux grandes puissances et quoi qu'il en coûte à l'orgueil russe, les signes de bonne volonté envoyés par la Turquie lui permettent aujourd'hui de se placer en arbitre à la faveur de cette réconciliation. La Turquie, vous le savez, souffrait de l'embargo russe et avait commencé à envoyer des signes de bonne volonté au lendemain du 9 mai dernier, alors qu'on fêtait ici la victoire russe contre le nazisme. Et aujourd'hui, le Kremlin ne peut plus s'encombrer d'un conflit potentiel, même s'il est diplomatique. Ajoutez à cela que les intérêts conjoints des deux pays sont considérables. D'abord, les échanges économiques et commerciaux. Ensuite, le rétablissement de la délivrance de visas touristiques pour faire circuler, bien sûr, ceux qui vont en vacances, mais aussi des visas de travail pour ceux qui viennent travailler en Russie. Et puis enfin, les relations industrielles. Moscou, avant la brouille, avait signé un important contrat pour la construction d'une centrale nucléaire en Turquie. Et puis, il y a aussi un considérable projet de gazoduc, Turkish Stream, incontournable pour la distribution du gaz russe en Europe du Sud. Un projet qui avait été aussi gelé et qui sera relancé.
Marc Crépin, merci beaucoup. Vous étiez en direct de Moscou. Séquence interview avec notre invité, donc Olivier Frégé, Jean-Marc Chardon.
Olivier Fréget, qui est donc avocat spécialiste des questions liées à la concurrence et donc aussi à la régulation. Alors, vous intervenez au niveau des politiques de concurrence en Europe et en dehors de ses frontières. À vous entendre, il existe un droit européen à la concurrence, une griffe européenne en quelque sorte, une construction de toute pièce, dites-vous, qui est différente du modèle anglo-saxon. Mais à lire votre livre, une idée toujours neuve en Europe et en France, on se dit ça ne doit pas très bien marcher, non ?
Ben écoutez, je crois pas. Je pense que ça marche au contraire bien. Malheureusement, il faut pour cela que l'idée progresse et qu'elle soit défendue et non pas vilipendée comme la concurrence l'est de manière systématique par notamment tous nos hommes politiques français. À commencer, il y a ça quelque temps, le premier d'entre eux qui se flattait d'avoir fait disparaître la concurrence du fronton du traité de Rome. Donc, il y a une grande œuvre de pédagogie à faire. On est sans doute l'un des pays en Europe dans lesquels il y a le plus d'œuvres de pédagogie à faire sur ce qu'est la concurrence, c'est-à-dire cette rivalité qui est maîtrisée, régulée, tranchée par des juges le cas échéant et qui sinon laisse liberté individuelle s'exprimer.
Oui, mais alors il y a quand même deux discours aujourd'hui qui se juxtaposent. Il y a ceux qui disent l'Europe, elle est de plus en plus libérale, ultra-libérale, disent certains, puis les autres de plus en plus interventionnistes, voire dirigistes. Et là-dedans, la concurrence, elle est où ?
Ben, on va le voir, peut-être malheureusement avec la Grande-Bretagne, on va voir ce que c'est qu'une concurrence non régulée, une concurrence sans juge, une pure rivalité. On s'apercevra à quel point on a construit alors en Europe un système relativement civilisé dans lequel on essaie de réguler la concurrence entre les États pour qu'il ne rebascule pas dans une forme de guerre ou dans lequel le droit précisément permet de gérer une rivalité acceptable.
Pour vous, la concurrence, c'est une sorte de résultat de la régulation, c'est ça, si on vous
la concurrence
bien
n'existe pas à l'état naturel. Elle est une construction
politique.
Oui, parce
qu'il faut le préciser, parce que sinon, quand on dit ça spontanément, on a l'impression que c'est quand même
c'est la
lutte de tous contre tous. Oui.
C'est la rivalité qui existe. La rivalité, elle n'est pas obligatoire entre les acteurs économiques. Vous pouvez développer des activités diverses sans forcément une situation de rivalité. Mais c'est un effet assez naturel. Bon, la concurrence est une construction politique, notamment une construction juridique.
Jean-Marc Chardon.
Alors, question, où se trouvent les Britanniques là-dedans ? Parce qu'on voit bien qu'il y a ce que vous appelez l'ordo-libéralisme inspiré des Allemands, l'économie sociale de marché. Et il y a la France qui, elle, serait pour un gouvernement économique, donc qui veut faire intervenir des mécanismes plus forts. Et puis, il y a la Grande-Bretagne. Donc, comment faire jouer ensemble ces différents partenaires ?
Ben, il y a une authentique concurrence des idées entre les trois et c'est pour ça que nous pouvons être malheureux de ce que l'apport britannique va s'éloigner. Il y avait un équilibre entre la vision étatiste française, la vision ordo-libérale allemande et un libéralisme assez régulé néanmoins en Grande-Bretagne. Ils ont des autorités de régulation, ils n'ont pas connu la grande lessive anti-concurrence que les États-Unis ont connue ces 20 ou 30 dernières années.
Mais alors précisément, comment peut-on concevoir une réécriture des accords, les accords où sont présents les Britanniques, quasiment à 90% dans la plupart des traités ? Ça va être extrêmement compliqué, non ?
Alors, réécrire le droit de la concurrence, ça ne sera pas compliqué, parce que c'est peu de règles. Donc, c'est comme quelques règles du code civil, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est assez puissant. Si demain, ils adhèrent au triple E, donc à l'espace économique européen, eh bien, nécessairement, ils se retrouveront liés par ces règles de concurrence. Simplement, ce qu'ils auront perdu, et là, ils n'auront qu'à s'en prendre à eux-mêmes, c'est la possibilité d'influencer le processus législatif, puisque quand on est dans l'espace économique européen, d'une certaine manière, on bénéficie et on subit les règles, mais on a un rôle politique bien plus faible. Donc c'est le choix qu'a fait aujourd'hui la Grande-Bretagne, en pratique.
Mais est-ce que vous diriez, pour refonder par exemple l'Europe, qu'il faudrait que les règles de concurrence, libres et supposément non faussées, ce soit précisément de mettre aussi des droits, un tarif extérieur commun pour rétablir éventuellement des distorsions sociales notamment?
Je crois que, si vous voulez, si on rêve de refaire de l'Europe une forteresse et de se priver des apports extérieurs, on peut imaginer cela. Le coût sera pour chacun de nous d'un rapetissement de l'Europe sur, et finalement elle deviendra cette petite péninsule asiatique sans ambiance. Nous avons les moyens d'être dans le monde actuel sans aucune difficulté et d'y avoir notre place. On n'a pas besoin de se fermer.
On n'a pas besoin de se fermer, Olivier Fréjet, la concurrence, une idée toujours neuve en Europe et en France.
Merci Jean-Marc Chardon. Le temps nuageux, voire pluvieux dans le nord, ensoleillé dans le sud, température 18 à 32, édition réalisée avec François-Charles Domergue. Le prochain journal est à 18h avec Tara Schlegel.